Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, Frédéric Becbédé nous dévoile sa bibliothèque, mais pas chez lui, dans un livre. En revanche, nous irons bien visiter une vraie bibliothèque, celle du camarade Mathieu Noël, gros lecteur. Nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours chez Stan aujourd'hui, et ce grand enfant de Victor Dolan fermera la boutique avec son roman jeunesse, évidemment. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. Il a décidément le sens du titre « Bibliothèque de survie ». C'est le nouveau livre de Frédéric Becbédé à l'Observatoire. C'est l'idée du livre qu'on emporte sur l'île déserte pour survivre, donc. Mais sauf que là, il s'agit plutôt d'une boîte à outils livresque pour survivre dans la jungle de la vie normale. Je cite Oscar Wilde, qui est toujours là quand on a besoin d'une citation, mais qui correspond vraiment bien à ce livre-là, Oscar Wilde, donc, qui disait « Il n'y a pas de livre moral ou immoral, les livres sont bien écrits ou mal écrits, et c'est tout ». C'était dans la préface de Dorian Gray. Bonjour Frédéric Becbédé.
Bonjour Nicolas.
Ça vous va cette citation ?
Ah oui, pour moi, elle est très courageuse, surtout qu'il l'a répétée à son procès.
Et que ça l'a enfoncé.
Oui, il a été condamné aux travaux forcés. Oui, mais c'est vrai qu'il est important encore aujourd'hui de redire ce principe de base. La morale, c'est important dans la vie, mais pas dans les livres. Et dans l'art, quelquefois, ça peut même donner de mauvaises œuvres.
Vous avez mis d'autres citations en exergue de ce livre. J'en cite une de Franz Kafka. « Il me semble d'ailleurs qu'on ne devrait lire que les livres qui vous mordent ou vous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ?» C'est ça la littérature ? Faut forcément que ça bouscule ?
Moi, je trouve, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec Franz Kafka et moi. Moi, j'aime bien quand un livre me secoue. J'aime les livres qui provoquent, qui donne envie de discuter, de s'engueuler. J'aime bien ne pas être d'accord avec le livre que je suis en train de lire. C'est bizarre, j'essaie d'analyser ce problème. Pourquoi est-ce que j'ai tellement besoin d'être choqué tout le temps ?
Mais on peut être choqué par la beauté d'ailleurs aussi.
Bien sûr, oui.
Sur le long terme.
La beauté, et en tout cas, militer contre l'ennui, c'est important. Et les livres qui me donnent des leçons, peut-être qu'en réalité, ils m'endorment. J'ai besoin d'être réveillé. Je suis un enfant gâté, un peu blasé, qui n'aime pas le ronron.
Alors, c'est le tome 3, finalement, après Inventaire avant liquidation et Premier bilan après l'apocalypse. Et alors là, il y a une très, très belle préface, très juste. Même si vous faites preuve d'un peu de mauvaise foi, mais ça, c'est normal.
C'est
vous avez
indispensable.
Ce livre, quand dites-vous, la police montait la garde devant les librairies fermées par le gouvernement. Mais attendez, et vous dites que c'est la fin d'un processus de liquidation de la littérature. Maintenant, il y a la police devant les librairies.
Bah quand même, symboliquement, oui, c'est assez fort de
se dire que... Les libraires n'ont jamais vendu autant de livres que l'année dernière. Il y a eu un regain incroyablement beau de la littérature et de l'envie de lire.
Oui, mais bon, si on nous avait dit il y a quelques années qu'en France, la police interdirait l'accès aux librairies pendant 5 mois, on aurait eu du mal à le croire. Donc voilà, c'est le symbole qui me choque. Et je me dis que... le mouvement de contrôle sanitaire va de pair avec une hygiène mentale et qu'il y a quelque chose là peut-être de commun. Cette inquiétude pour notre santé, cette inquiétude de l'État pour nous protéger, elle peut dériver vers aussi une envie de nous protéger contre certaines pensées.
Vous dites aussi « la critique est un pari, nous sommes les turfistes de la postérité ». Les critiques. Mais je ne peux pas croire que vous écrivez ces livres simplement pour qu'on puisse dire dans 50 ans, Frédéric Becbédé avait raison.
Si, bien sûr, c'est pour ça.
Ah, c'est pour ça, d'accord. Bien sûr.
D'ailleurs, j'aimerais qu'on le dise dès aujourd'hui.
Évidemment, non, je ne vous pose pas la question de l'utilité d'un livre, mais à quoi ça vous sert d'écrire tout ça ? C'est juste pour partager, c'est quoi ?
Je lis pour moi, d'abord. Je lis pour lire. C'est ma façon à moi de survivre. Sans la lecture, je ne serais pas ici. La lecture m'a toujours sauvé. Et deuxièmement, ensuite, comme dans mon métier de journaliste, je partage mes goûts et mes dégoûts, oui, c'est une forme de pari. C'est un pari de se dire, on a envie de convaincre, on a envie que tout le monde soit ému comme on l'a été. Et puis c'est une inquiétude aussi, parce que je me suis souvent trompé, parce que le principe même de la critique littéraire, c'est de se tromper, c'est d'avoir des enthousiasmes et des énervements sur un moment, et puis c'est aussi de changer d'avis. Il y a des auteurs que j'ai adorés qui m'ont ensuite déçu, il y a des auteurs que j'ai descendus qui se sont révélés absolument géniaux. Et hier, je lisais la revue des Deux Mondes qui est consacrée ce mois-ci à Romain Gary, avec une très belle photo en couverture. Et ils ont publié un florilège des critiques littéraires assassines sur tous les romans de Romain Gary. C'est un auteur qui se faisait flinguer. Mathieu Gallet, toute sa vie, a, avec une grande fidélité, détruit Romain Gary. Et voilà, Romain Gary est dans la Pléiade, il est là, il est incontestable, c'est un grand écrivain français qu'on admire tous. Donc, c'est pour relativiser, voilà.
Et qui sont, vous, les auteurs que vous avez assassinés et sur le cadavre desquels vous avez pleuré ensuite?
Non, mais ça m'est arrivé de changer d'avis sur certains écrivains. Et heureusement, là, vous me prenez au dépourvu, mais il y a des écrivains qui sont parfois en forme, et parfois... Parfois moins.
Ah, vous ne changez pas forcément d'avis sur le livre que vous n'aviez pas aimé, mais sur l'écrivain.
Oui, c'est ça. Sur
son envergure.
Oui. Prenons par exemple Philippe Lançon. Philippe Lançon, je n'ai pas aimé ses premiers romans. Je l'ai écrit. Et puis, il a été victime de l'attentat de Charlie Hebdo. Il a écrit Le Lambeau. Et c'est un chef-d'œuvre.
Qui est dans votre livre.
Et il est dans mon livre.
Prix Renaudot, d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Donc, vous faites partie.
Oui, je pense que ça fait partie du contrat de base dans notre métier, cher Nicolas, c'est d'être capable d'évoluer et de se remettre en question tous les jours.
Et alors là, il y a beaucoup de remises en question en ce moment, pas de la part des critiques, mais de la part d'un certain public sur certaines œuvres qui sont ou qui menacent d'être interdites ou censurées. Ça vous inquiète beaucoup. En fait, la préface est très belle aussi pour ça. C'est parce que ça parle de ça. Ça parle de ce mouvement en ce moment, de nouvelles censures inédites.
Oui.
Ça vous inquiète?
Oui, bien sûr. Je pense que ça, c'est ce que je disais, ça va aussi avec ce besoin de protection. C'est la même démarche que pour le coronavirus, si vous voulez. On demande à ne jamais souffrir, on demande à ne jamais mourir, on demande à ne jamais être vexé ou être blessé. Ou à jamais tomber malade, si vous voulez. C'est la même chose. Or, je pense que l'art n'offense jamais personne, que nous ne sommes pas des espèces, des petits animaux comme des bébés pandas en voie de disparition, comme dit Bret Easton Ellis. On est, je pense, assez fort pour pouvoir accepter qu'un livre nous choque, nous remue, et c'est très bien si on n'est pas d'accord. Enfin, là, je parle de choses assez extrêmes qui ont plus lieu aux États-Unis qu'en France, Dieu merci. Mais quand des étudiants demandent à ce qu'il y ait un avertissement avant la lecture de Gatsby le Magnifique, parce que Tom Buchanan parle de façon désagréable à Daisy, je crois que là, bon, voilà, non, c'est important que dans
un roman... On s'en était rendu compte en plus, quoi.
Oui, cet homme est un sale con, c'est un sale macho, il trompe sa femme, il est dégueulasse avec elle. Mais bon, c'est bien qu'on puisse le raconter dans des romans.
Vous avez cité Bret Easton Ellis, justement un grand censuré lui aussi. Il fête les 30 ans d'American Psycho, on va y revenir dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Frédéric Becbédé pour son nouveau livre « Bibliothèque de survie » aux éditions de l'Observatoire, une boîte à outils livresque indispensable pour la survie dans la vie normale. Frédéric Becbédé, vous êtes toujours avec nous. Tout à l'heure, vous avez cité Bret Easton Ellis parce qu'on parlait de cette nouvelle censure inédite et incroyable, certains livres qui sont caviardés parce que jugés ou racistes ou parce qu'il y a un mauvais mot dedans. Voilà, bon. Et Bret Easton Ellis, lui, il y a 30 ans, publie American Psycho, mais il le publie de justesse parce que la plupart des éditeurs lui ont refusé.
Oui, Simon & Schuster avait versé un avaloir conséquent à Ellis et lui a refusé le manuscrit. Et ensuite, il y a eu un tel scandale qu'il était menacé de mort par des associations féministes. Et tout ça pour un roman, une fiction, un personnage imaginaire qui est un tueur en série absolument épouvantable, qui a tous les défauts et toutes les tares de l'Amérique, mais les plus outrancières. Mais évidemment qu'on doit pouvoir raconter des histoires violentes sans être censuré. Enfin, ça paraît incroyable d'être obligé de rappeler ce que Baudelaire écrivait « Le beau est toujours bizarre ».
C'était étonnant ça d'ailleurs, parce que donc American Psycho, je rappelle, c'est l'histoire de Patrick Bateman, un trader cynique, comme ça, très beau gosse, tiré à quatre épingles, maître du monde, et qui le soir se transforme en psychopathe qui tue à coups de hache des prostituées.
Oui, mais c'est la même chose que Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Mais pourquoi celui-là, on lui en veut? Parce que d'habitude, la violence physique, en fait, c'est la seule chose qui n'est pas censurée. On peut mettre des meurtres sur TF1 à 20h30, ça ne dérange personne.
Oui, c'est
pourquoi
vrai.
Celui-là? Parce que c'était trop bien écrit? Parce que trop juste?
Je pense que c'était quand même ultra violent. C'était un livre porno, très sadique, très extrême. Et puis, c'était le début de ce mouvement de cancel culture en Amérique qui est né à ce moment-là, à peu près. Le livre date de quoi? De 91. Et ensuite, voilà, ça a été c'était la première victime de cette... nouvelle forme de censure, mais ça a toujours existé. C'est ça qui est important de rappeler. Le procès de Charles Baudelaire et de Gustave Flaubert en France, ce sont des démarches similaires de cancel culture, où la morale puritaine voulait interdire des œuvres d'art parce que trop choquantes pour l'époque.
Justement, Bret Easton Ellis était venu il y a 2 ans pour un livre, et j'avais eu la énorme chance de l'interviewer, et voilà ce qu'il disait à propos de tout ça.
C'est ridicule, c'est absurde. Nous vivons dans une société absurde, on ne peut plus soutenir une opinion. Une opinion, c'est juste ma vision des choses. Et si ça vous blesse, c'est votre problème, ce n'est pas mon problème. Mais tout le monde se victimise maintenant, tout le monde est tellement fragile. Je pense que nous vivons dans un monde terrible où nous sommes tous comme des enfants et nous devons faire très attention aux émotions des autres. Mais votre émotion n'est pas réelle, elle est fabriquée, c'est dans votre tête. C'est mauvais pour tout le monde, mais c'est particulièrement grave pour les artistes. C'est mauvais pour les gens qui créent, c'est mauvais pour les gens qui sont censés ruer dans les brancards, explorer les tabous, qui exercent un art dangereux, qui bouscule les gens, qui contrarie et qui propose une autre manière de voir les choses. Mais ça n'arrive plus parce qu'on a peur maintenant d'offenser les gens. C'est une société qui, tout bien pesé, ne se soucie plus de l'art.
Vous signez trois fois.
Bien sûr, mais il faut rappeler quelque chose tout de même. C'est que Bret Easton Ellis était un écrivain à succès aux États-Unis dans les années 80 et que quand même, ils ont gagné. L'ennemi a gagné, la censure puritaine a vaincu puisque Ellis, aujourd'hui, c'est plus un auteur à succès.
Donc, il ne veut plus écrire de romans non plus.
Bien sûr, donc on voit que d'une certaine façon, je suis inquiet, mais pas tant que ça en France, mais en Amérique, cette culture de l'aseptisation, de l'édulcoration de l'art, a, pour l'instant, remporté une victoire.
Mais vous parliez tout à l'heure de la censure de Baudelaire et Flaubert, et du procès même, des condamnations et de l'interdiction.
Oui, enfin, Flaubert a gagné, mais Baudelaire a perdu.
Baudelaire interdit les fleurs du mal. Mais finalement, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Ça veut dire que c'est un livre qui compte, c'est un livre qui dérange. On revient à la citation de Kafka du début de l'émission, que vous avez mis en exergue
les livres
de votre livre.
Qui vous mordent ou qui vous piquent.
Qui vous piquent et qui vous dérangent.
Oui, c'est vrai, oui. Oui, on peut voir ça comme ça. Mais enfin, pour un écrivain, quand il ne peut plus publier, quand il est constamment attaqué, quand il est obligé de s'excuser, comme ça arrive de plus en plus, ça n'est pas sain non plus. On ne va pas se réjouir de ça.
Vous avez vécu comme ça aussi, et c'est votre talent, hein, y compris dans votre vie. C'est-à-dire votre manière de choquer un peu, de provoquer un peu, que ce soit volontaire ou pas, peu importe. Mm-hmm. Mais vous en avez fait des romans superbes. Mais si vous étiez dans un monde où tout le monde est comme vous, vous n'auriez plus cette singularité, donc vous ne pourriez même plus écrire, finalement.
Oui, c'est vrai que j'ai même quelquefois puérilement cherché à provoquer des bad buzz, je pense, mais inconsciemment, quoi. Et c'est une façon d'exister aussi, de chercher le scandale. C'est vrai, et en plus, beaucoup des écrivains que j'admire ont fait scandale. Beaucoup sont allés en prison. Donc, c'est... Vous n'avez pas tort. Il y a quelque chose d'un peu infantile là-dedans. Il faudra que j'y réfléchisse. Mais c'est important, en tout cas, de redire que la liberté, c'est plus important que la morale
dans
la littérature.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que ça avance toujours de manière un peu linéaire, comme ça. On sait bien aujourd'hui, c'est même d'une banalité sans nom, de dire qu'on ne touche pas aux livres, quoi, qu'il y a quelque chose d'un peu sacré, qu'on ne brûle plus les livres. On le sait au moins depuis les bûchers hitlériens.
Oui, mais alors, vous savez Savez-vous quel est le livre le plus vendu en France en ce moment? C'est un livre qui
s'appelle... Burn After Writing.
Voilà. C'est un livre qui demande au lecteur d'écrire lui-même le livre. C'est des questions, il faut écrire genre
le journal intime, quoi.
Voilà, et ensuite, il faut brûler le livre. Donc, vous voyez, ce geste nazi est en tête des ventes en France. Donc, il y a quand même lieu de s'inquiéter. Non, mais plus sérieusement, moi, je pense que la morale... comment dire, c'est quelque chose qui me préoccupe. Je suis pour, comme tout le monde, je suis politiquement correct. Moi, je suis pour le bien, je suis contre le mal, je suis contre le racisme et l'homophobie, évidemment. Ce que je ne comprends pas, c'est comment cette tolérance est devenue de l'intolérance. Et on a un bon exemple assez intéressant, c'est les pays communistes. Au XXe siècle, en Union soviétique et dans tous les pays dépendants, on n'avait pas le droit d'écrire des livres pessimistes. Un livre devait être optimiste, sinon il était puni, interdit et l'auteur banni. Et il y a de multiples exemples. Et est-ce qu'il fallait se réjouir de cette interdiction? Peut-être que oui, puisqu'elle a donné de très grands écrivains. Des gens comme Kundera, comme Solzhenitsyn, comme Bulgakov.
Mais à cause de cette contrainte.
Parce que c'était interdit. Et du coup, ils étaient obligés d'écrire en cachette leurs livres pessimistes.
On va quand même être optimiste un peu, nous aussi, en parlant des livres qui survivent et des livres presque éternels, parce qu'il y a beaucoup de livres modernes et contemporains dans votre panthéon, là, le dernier, mais il y a aussi des livres, vous parlez de Colette et de Fournier, le Grand Maulne, c'est quand même le Graal, ça, quand des dizaines d'années plus tard, un siècle plus tard quasiment pour le Grand Maulne, non, même plus, d'un siècle, on en parle encore.
Oui, bien sûr.
Comment on explique ça? Comment ça peut être aussi moderne, le Grand Maulne?
Peut-être parce que justement, il contredit tout ce qu'on vient de dire. C'est un roman où le bien et le beau sont liés. Et c'est un roman qui n'a pas besoin de plonger en enfer pour trouver de la féerie. C'est vraiment un conte de fées, c'est peut-être le dernier conte de fées non ridicule qui a été publié en France. Et Colette, c'est plus ambigu, parce que Colette, c'est un auteur dont Cocteau disait qu'elle avait l'innocence de ne pas choisir entre le bien et le mal.
Elle est en première place dans votre livre.
Oui, je pense que l'importance de Colette, c'est le regard. C'est-à-dire qu'elle, notamment dans ce livre que j'ai placé en numéro 1 de ma liste, Le pur et l'impur, c'est qu'elle pense que le pur et l'impur sont indissociables et aussi beaux l'un que l'autre. Elle ne veut pas trancher entre le vice et la vertu. Et ça, je trouve que c'est d'une grande modernité.
Il y a encore un Fitzgerald, évidemment. Et là, c'est Tendre et la nuit, cette fois, qui n'est pas le plus apprécié, d'ailleurs. En fait, si, il est très instagrammé, par exemple, parce que le titre est très joli. Oui. Mais la plupart des gens qui le lisent, ensuite, disent « Ah, non, je me suis arrêté, mais trop c'est long, vrai, oui. etc. »
C'est intéressant parce qu'il y a deux sortes de fans de Fitzgerald et ils se font la guerre. Il y a les Gatsbistes et il y a les tendristes. ceux qui aiment...
Et les féluristes, ça c'est vous.
Ceux qui aiment Jay Gatsby parce qu'il est arrogant et flamboyant, et puis ceux qui aiment Dick Diver, Richard Diver, qui est complètement dépressif, malheureux.
Ou Nick Carraway, qui observe Gatsby.
Ah, Nick Carraway, c'est un personnage fascinant. Préféré, mais ça, c'est dans Gatsby, oui.
Parce que
oui,
Nick Carraway, Nick Caro, je me suis identifié.
Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est extérieur à l'histoire, il regarde tout comme ça, et c'est le narrateur.
Mais qu'est-ce que vous avez avec Fitzgerald? C'est votre surmoi, en fait? À chaque fois, vous parlez de Fitzgerald, tout le temps, vous parlez de Fitzgerald.
J'ai commencé par l'aimer pour de mauvaises raisons. En fait, j'ai commencé par l'aimer parce qu'il y avait des belles femmes en robe du soir, ivres mortes dans des bals, et des garçons en smoking, tristes. Et donc, je me suis beaucoup identifié aux jeunes gens tristes dont il parle, et puis à ces fêtes fabuleuses. Et là, en mûrissant, je m'aperçois que c'est plus profond que ça. C'est d'abord un révolté. C'est un satiriste. Il est très, très, beaucoup plus mélancolique que festif. Et puis, c'est surtout la forme. C'est le style. C'est la recherche de l'adjectif simple mais surprenant. Et vous avez raison, la fêlure est peut-être son sommet. C'est 4 articles publiés dans Esquire à la fin de sa vie où là, il invente l'autofiction, en fait. Il invente ou il renouvelle le genre de la confession autobiographique.
Il évoque sa dépression. En fait.
Sa dépression, son alcoolisme, son incapacité à écrire. C'est absolument magnifique. C'est vraiment un texte que je relis, moi, chaque année, quoi.
Ce qui est étonnant avec Fitzgerald, c'est que justement, on le prend un peu pour l'écrivain qui magnifie comme ça les grandes fêtes, la jet set, si on veut. C'est anachronique, mais peu importe.
Oui, oui.
Mais en fait, il ne dit pas autre chose, s'il dit quelque chose, que ce sont tous des damnés, lui y compris, quoi.
Oui, oui. Les beaux et les damnés. C'est-à-dire, il y a aussi une fascination pour les riches. On pourrait dire qu'aujourd'hui, il critiquerait peut-être la publicité. Parce que c'est ce rêve qu'on nous vend à l'époque. À l'époque, c'était les milliardaires de la côte est des États-Unis dans leurs grandes villas. Mais aujourd'hui, c'est peut-être les crétins sur leurs grands bateaux dans la Méditerranée où les milliardaires de la Silicon Valley, ils les regardaient avec une fascination un peu dégoûtée et avec une honte pour son propre désir. Pour moi, le roman, c'est ça. C'est qu'un roman qui choisit son camp est moins intéressant qu'un roman ambigu, voilà, qui ne choisit pas, qui ne sait pas décider s'il trouve que quelque chose est belle ou moche. C'est au lecteur d'être face au monde. C'est un miroir, en fait. Un roman, c'est un miroir. C'est Stendhal qui l'a dit et c'est vrai.
Si vous voulez faire passer un message, disait Hemingway, envoyez un télégramme.
Oui. Oui, ou alors il y a la phrase de Proust aussi. Un roman avec un message, c'est comme un cadeau où on aurait laissé le prix dessus.
On a parlé de Colette, Fournier, Fitzgerald, Hemingway, Proust. Est-ce que vous avez fait des découvertes tardives de grands monstres sacrés de la littérature? Vous êtes un lecteur passionné depuis très très longtemps, mais est-ce qu'un jour vous êtes dit, mais pourquoi je suis passé à côté?
Tous les jours, bien sûr, heureusement.
Par exemple?
Mais par exemple, dans Bibliothèque de survie, je parle des Carnets du sous-sol de Dostoïevski que j'avais jamais lu, mais c'est extraordinaire.
Oui, mais vous connaissiez Dostoïevski?
Oui, je connaissais, oui, mais ce livre-là est particulièrement actuel. C'est quand même un type qui refuse de sortir de chez lui parce qu'il a peur de l'humanité, il a peur de tout, il se terre dans sa cave. On dirait une sorte de mélange de Cioran et Houellebecq, un anti-héros super aigri, super drôle. Et La montagne magique de Thomas Mann aussi, j'ai découvert redécouvert, mais relire, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit que soi-même, on a changé. Donc le livre est très différent. Et cette réclusion de 7 années dans un sanatorium en Suisse, avec tout le monde qui meurt autour du héros, tout en buvant des grands crus classés. Enfin, je trouve que, voilà, j'ai cherché à faire un panorama de la littérature contemporaine, des écrivains vivants, mais aussi des morts, et surtout des livres qui résonnent avec l'année qu'on vient de subir.
Et c'est un livre qui donne envie de lire ou de relire les romans dont vous parlez, Bibliothèque de survie. C'est aux éditions de l'Observatoire. Restez avec nous, Frédéric Becbédé, puisque nous partons dans une bibliothèque chez le camarade Mathieu Noël dans un instant.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, nouvelle page. J'ai croisé Mathieu Noël dans les couloirs d'Europe 1 l'autre jour et je me suis dit, tiens, Mathieu, il lit beaucoup, je crois. Il me pique toujours mes livres. J'irai bien voir ce qui se cache dans sa bibliothèque. Je lui ai demandé, il a dit ok, alors allons-y. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Nicolas Carreau.
Pardon, j'ai un peu de mal à me concentrer parce qu'évidemment, oui, vous faites tout le temps l'idiot.
Ah, pas du
et
tout.
Juste au moment où on allumait les
micros, je rappelle que je suis historien quasiment.
Vous faites des blagues.
Non, je suis historien cette année. Je ne fais plus de blagues. Soyons sérieux, vous avez la chance d'être dans ma bibliothèque.
Oui, alors dans votre couloir même.
Oui, c'est un couloir.
Est-ce que vous faites partie de ma malédiction, c'est-à-dire les gens qui ont une maison de campagne et qui laissent la plupart de leurs livres là-bas, mais vous en avez quand même, on est à Paris, dans votre appartement, et vous avez quand même une belle bibliothèque encore ici.
Je vous remercie d'avoir cité ma maison de campagne. On va laisser le fisc en dehors de tout ça. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Et effectivement, tous mes livres ne sont pas là, c'est vrai. Et j'aime qu'ils soient dans un couloir parce que la littérature est avant tout un passage pour moi.
Oh, c'est magnifique.
Oui, je t'ai trouvé ça comme ça, t'en feras ce que tu veux.
En tout cas, vous avez une bibliothèque assez complète et même hétéroclite. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est mal rangé dans le genre, mais très bien rangé dans les formats. C'est-à-dire que tout se côtoie. Il y a de l'histoire à côté des romans, à côté de la philosophie et à côté De vos antisèches, puisque vous êtes aussi un peu humoriste quand même.
Évidemment, évidemment.
Et là, on a trouvé votre référence, la Bible de l'humour.
C'est mon secret, dès que j'ai un coup de mou, hop, la Bible de l'humour,
c'est
très belle couverture. Je n'en ai aucune idée, puisque je ne l'ai jamais ouvert. Ah si, je l'ai ouvert, parce que j'avais coché, et ça se trouve...
Les pages sont cornées.
Les pages sont cornées, donc peut-être que j'ai piqué des phrases à Daniel Prévost, à Michel Galabru, à François Rollin, tout ça, c'est tout à fait possible. Et je ne les ai jamais citées, évidemment, j'ai dit que c'était moi qui les avais inventées.
Par grosse chaleur, si le thermomètre ne répond plus, c'est qu'il n'a plus de forfait, voilà tout. Daniel Prévost.
Bon, c'est le meilleur
après,
de Daniel Prévost.
Après, voilà. C'est le ton qui compte.
Exactement, là, tout est dans l'intonation.
Et alors là, vous avez Pierre Dac,
Pierre Dac, en revanche,
L'eau Samoile.
L'eau Samoile, ça c'est quand même une belle référence, oui. Oui, alors tout ça pour tout dire.
C'est une vraie référence, en vrai ?
Oui, oui, c'est une référence. Moi, c'est à travers mon père que j'ai découvert l'humour. Mon père lisait Pierre Dac. Aussi, même le format radio, par exemple, c'est en écoutant Guy Carli, avec qui j'ai travaillé par la suite, avec mon papa dans la voiture, que j'ai découvert le format du portrait ou de l'humour satirique à la radio.
Quoi. Guy Carli, qui au début s'appelait Monsieur Le Télec.
Monsieur Le Télec, bien sûr, c'est comme ça qu'il a commencé, comme un faux courrier des lecteurs, un faux auditeur qui écrivait à la radio. Et donc ça m'a beaucoup marqué. Mais ça, pour tout vous dire, tout ce qui est des livres d'humour, au risque de vous décevoir, ce sont des cadeaux. Parce que moi, personnellement, je ne vais pas spontanément vers les livres d'humour, je vais plutôt vers les livres chiants. C'est plutôt ça qui m'intéresse, la philosophie, les romans bien lourds.
Voilà, ah oui, on se dit, ah Mathieu, il est rigolo, on va lui prendre un petit
voilà,
livre d'humour.
C'est, ouais, voilà, ouais. C'est les gens qui me connaissent mal. Mais ça fait plaisir quand même. Hein.
C'est un peu idiot en même temps, parce que vous êtes effectivement humoriste aussi.
Oui,
et
un peu.
Je sais pas, on n'offrirait pas un traité de médecine à un médecin, par exemple.
Exactement. Voilà. Mais vous allez plus loin que moi, en fait. Ces gens, ils me connaissent mal, mais en plus, ils sont cons. Vous l'avez dit, on va les rappeler un par un. Il y a peut-être des petits messages dedans. On va regarder qui m'a offert ça. Peut-être c'était pour un anniversaire ou quelque chose. Non, c'est pas écrit. On va chercher, on va retrouver ces gens-là.
J'ai trouvé Daniel Pénac comme un roman. C'est le livre dans lequel il édicte les droits des lecteurs. Je vous l'ai dit, vous me dites si vous êtes d'accord.
Oui,
vous serez d'accord avec tout, mais le droit de ne pas lire.
Oui, mais c'est un peu con quand même.
Le droit de sauter des pages.
Alors non, ça je ne suis pas d'accord avec Pénac.
Ah, vous lisez une extenso ou rien ?
Je ne suis pas d'accord avec Pénac, parce que quand on prend le temps d'écrire un livre, chaque page compte, il peut se passer n'importe quoi sur n'importe quelle page, telle phrase peut être travaillée d'une certaine manière, on ne peut pas passer à côté, c'est trahir l'auteur, je ne suis pas d'accord avec Pénac là-dessus.
Oui, mais Les Misérables, par exemple, il y a plein de digressions monstres sur la guerre de Waterloo, sur les égouts de Paris, qu'on peut passer sans passer à côté de l'intrigue.
Ah bah passer à côté de l'intrigue, mais peut-être qu'il n'y a pas que l'intrigue d'intéressante chez Hugo, et c'est intéressant de lire ça d'un point de vue historique, notamment. Non, moi je suis pas d'accord avec Pénac là-dessus.
J'entends. Le droit de ne pas finir un livre.
Ah bah ça, oui, il y a des livres qui tombent des mains. Il faut donner la chance au produit jusqu'à la centième page, et puis après, si on n'y arrive pas, il ne faut pas...
Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font un point d'honneur à finir un livre,
oui,
s'ils l'ont commencé.
Alors, c'est mon cas, on en parlera peut-être tout à l'heure, de Marcel Proust, hein, parce que je n'ai jamais réussi à finir un seul livre de Marcel Proust. J'essaie tous les étés, je ressors du côté de chez Swann, j'avance de quelques pages, j'avance, je me force, mais je n'y arrive pas.
Qui vous en
empêche ? Je trouve ça fascinant et merveilleusement écrit, mais c'est tellement peu page-turner, comme on dit, et surtout, je suis obligé de reprendre des phrases qui font quand même 4 pages pour savoir où on en est. C'est trop douloureux pour moi. Vraiment, ça prend trop de temps.
Mais vous réessayez chaque année, quoi.
Un jour, j'attends la retraite.
Et vous n'avez même pas fini le premier tome du côté de chez Swann.
Mais c'est qu'il se fout de ma gueule, en plus.
Non, j'essaie
vous
de comprendre.
Mais Nicolas, c'est peut-être qu'on se connaît un petit peu, mais vous diriez ça à une vedette que vous auriez...
Si vous écoutiez mon émission...
Ça doit être ça. J'essaierai, c'est le dimanche, c'est ça.
Alors, je continue. Le droit de relire.
Ah oui, bien sûr, relire.
Est-ce
quand
y a
on
un
aime...
livre que vous relisez régulièrement
Oui.
À part Proust, mais...
Oui, Un balcon en forêt, Julien Gracq.
C'est vrai ?
Oui, j'aime bien dire ça. Ça, c'est bien pour mes fans. Non, je rigole. Si, je relis Julien Gracq parce que pour moi, Julien Gracq, ce n'est pas des romans, c'est de la poésie, en fait. C'est de la poésie en prose. Et donc, parfois, juste pour me bercer de son style, c'est le genre de livre, en tout cas, que je peux ouvrir comme ça.
Ouais. Mais vous le reprenez du début jusqu'à la fin
vous piochez dedans ? Non, je pioche dedans quand j'ai déjà lu.
Le droit de lire n'importe où.
Lisez
où ?
Alors moi, je lis...
Vous lisez à l'antenne, puisque n'importe où.
À l'antenne.
Je cherche des endroits un peu...
Oui, vous avez tout à fait raison. Parfois, quand je reçois un livre, j'ai la chance de recevoir parfois comme vous, moins que vous, mais quelques livres à Europe 1, et ben, il m'arrive de les lire les quelques minutes qui précèdent l'antenne, quand l'émission est déjà écrite, tout ça, on sait où on va, on sait quel est le thème, je lis tout à fait autre chose.
Mais
ça m'arrive, effectivement.
Et vous lisez où, d'habitude ? Est-ce que vous avez un endroit particulier où vous aimez bien lire ?
Non. Alors
fauteuil
là,
particulier.
Ah si, l'endroit où je lis beaucoup, c'est dans mon bain. Oui, j'adore.
Ah,
oui, je prends beaucoup de bains. C'est très mauvais pour le cœur, Mais j'aime bien, ouais, j'aime beaucoup partir au bain avec un livre. Je ne pars jamais au bain sans livre.
Pas très bon pour les livres éventuellement aussi, ça peut être dangereux.
Oui,
est-ce
il y a
que
eu
vous respectez l'objet livre ou est-ce que
je le respecte,
voilà, c'est
je,
tout, il a vécu.
Je le respecte, mais il y a certains livres qui auraient dû être amphibies, ils ont fini au fond de la baignoire, c'est arrivé, oui. Oui.
Et ben voilà, le 10e droit du lecteur selon Daniel Pennac, c'est le droit de se taire.
Ça, je l'applique tout le
On
temps.
On a le droit aussi. Je vois tous les Houellebecq aussi.
Oui, alors c'est très classique, hein, maintenant Houellebecq.
Vous l'avez rencontré tôt
Non, moi je l'ai découvert après en temps réel, La carte et le territoire, quand il est sorti. Il a eu le concours dans La
oui,
carte et le territoire.
2011.
Et j'ai adoré celui-ci, le dernier, non Sérotonine ou l'avant-dernier
oui, oui,
le
oui.
dernier.
Le dernier.
J'adore parce
c'est
que
c'est un condensé de Houellebecq.
Condensé de Houellebecq et surtout de l'humoriste Houellebecq. Parce que on le présente comme. Bon, c'est un grand écrivain aussi, sans nul doute, mais c'est surtout absolument poilant. Enfin, Sérotonine, c'est vraiment critique de nos sociétés, avec en plus du fond sur le monde paysan et les difficultés des agriculteurs. Tenez,
je l'ai voulu tomber dans la baignoire.
Il est tombé dans la baignoire, Sérotonine. Il est tombé.
Le pauvre
Houellebecq. Regardez Michel.
Il est lisible.
Oh
encore.
Là, Michel, il a une sale tête là. À moins que ce soit pas,
il
à moins que ce soit pas le fait d'être tombé.
Lisible.
Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, ça c'était. J'aime beaucoup Michel Houellebecq, mais enfin, comme beaucoup de gens. Mais
c'est un peu désespéré en plus d'être drôle, mais ça va avec souvent. Mais c'est.
Ah, moi, je suis très client de cet humour là. Hein. L'humour désespéré, c'est.
Ça rend peut-être un peu trop lucide Houellebecq sur la vie d'aujourd'hui, non, et peut-être un peu désespéré aussi, non, quand on le lit.
Oui, mais justement, en l'écrivant, ça va mieux. Je trouve que ça réenchante le monde, même en soulignant ses défauts. J'essaie de le voir comme ça, en tout cas. Non, je trouve que c'est feel good, parce que là, à vous écouter, quelqu'un qui n'aurait pas lu Sérotonine, il se dit que ça doit être plombant.
Non, moi j'aime beaucoup Houellebecq, j'adore.
Mais c'est génial, mais c'est rieur.
Je vois là un livre qui j'ai envie d'en parler, pas tellement pour son contenu, mais pour ce que ça représente. Ça s'appelle Black Mirror Inside et c'est signé Charlie Brooker, qui est le
créateur
de Black Mirror, la série. Et les auditeurs le savent peut-être pas, mais vous êtes un fou de série.
Oui, alors maintenant, le problème, c'est que j'étais un fou de série à l'époque où les séries étaient un peu mal vues. Aujourd'hui, tout le monde est fou de série. Charlie Brooker, c'est le créateur de Black Mirror, qui est peut-être une des meilleures séries de ces 10 dernières années. C'était un journaliste à la base. Et donc, c'est une série qui évoque le futur, un futur plus ou moins proche, dans lequel, en gros, tout part en couille. Enfin, on part d'un détail technologique qui est devenu commun dans le futur, et ça part en cacahuète. Et effectivement, je trouve que ce Charlie Brooker est assez génial, parce que même si la dernière saison est assez inégal, voire nettement en dessous des autres. Il y a quand même dans Black Mirror quelque chose de fabuleux, c'est que sur chaque épisode, qui est un film qui se tient à part entière,
indépendamment les uns des autres,
chacun aurait pu faire l'objet d'un film mythique de science-fiction. En fait. Et j'ai vu tellement de films pourris de science-fiction au cinéma sur une idée beaucoup plus insipide que n'importe quel épisode de Black Mirror que pour moi, Charlie Brooker, effectivement, est un génie. Charlie Brooker, juste pour le relier à quelque chose de purement littéraire, on peut partir sur Philip K. Dick.
Oh oui.
Parce que Philip K. Dick,
il est où?
Le dieu venu du centaure, entre autres, parce que les autres ne sont pas dans cette bibliothèque-là.
Philip K. Dick, c'est Running Man, c'est Total Recall, c'est...
C'est Minority Report.
Minority
si on
Report.
Veut. Il n'a pas écrit ça.
Blade Runner.
Mais disons qu'il a inspiré les trois quarts en fait, de la science-fiction, parce que d'autres idées sont contenues dans ses livres qui ont été reprises ensuite dans d'autres films. Pas de lui.
Mais il a écrit Minority Report.
Hein. Minority Report, il l'a écrit ?
Ouais.
Autant pour moi. Alors, il a écrit Minority Report carrément. Eh bien, enfin, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui était en avance sur son temps. Il était en avance sur la science-fiction même. Et beaucoup de choses viennent de lui, Philip K. Dick. Et il n'est pas reconnu aux États-Unis, oui. Mais ici, je trouve qu'il n'a pas le statut de... On parle de lui pour la science-fiction, mais c'est un auteur. C'est juste un grand écrivain pour moi.
Qu'est-ce qui vous plaît? C'est encore le côté philo qui vous intéresse?
Ouais,
par exemple, dans Ubik, il y a une tombe sur laquelle est indiqué « Je suis vivant et vous êtes mort ».
Et vous êtes mort, bah oui, c'est tout le génie de Dick. Mais c'est surtout, c'est pour ça que je le relis à Black Mirror, c'est une idée de comment les choses pourraient mal tourner en extrapolant des choses de son époque. C'est vrai, il y a des choses qui sont datées. Il invente un peu le téléphone portable dans Le Dieu venu du centaure. Enfin, il appelle ça les poupées pattes, c'est des espèces de combinés. Il le mélange avec la drogue. Enfin, c'est invraisemblable, mais ça dit toujours quelque chose de notre époque, ce qui est fou.
Vous avez jamais eu envie d'écrire, vous, un roman?
Ben, oui, l'envie, je l'ai eue. Des débuts de romans, j'en ai beaucoup. Mais de là à... Non, à chaque fois, mais moi j'ai trop de respect pour les grands auteurs. À chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de comparer. J'ai l'impression que tout ce que je peux écrire ne sera jamais à la hauteur de ce qui a été écrit avant moi. Et je sais que si tout le monde pense comme ça, personne n'écrit rien. Mais en tout cas, pour l'instant, non, j'ai pas eu l'idée lumineuse qui fait que j'imposerai ma plume aux gens.
Merci Mathieu Noël.
Eh ben, merci à vous. Vous m'avez fait découvrir des livres dans ma propre bibliothèque.
Merci beaucoup Mathieu.
Merci à vous.
Retour en studio toujours avec Frédéric Becbédé et sa bibliothèque à lui, sa bibliothèque de survie aux éditions de l'Observatoire. Je voulais visiter votre bibliothèque, Frédéric Becbédé, mais je vous ai loupé, vous êtes parti à Guétari et je ne peux pas me déplacer jusque là-bas.
Quelle erreur de votre part.
Ben oui, je sais bien, je n'ai pas le budget. Mais quand même, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que les livres sont rangés chez vous? Est-ce qu'il y a des livres d'abord chez vous, évidemment? Mais non, mais vous pourriez vous en débarrasser au fur et à mesure des lectures, ça arrive.
Oui, non, je croule sous les livres dans ma maison au Pays Basque, il y a des livres partout. Au début, j'avais classé par ordre alphabétique, et puis ça n'a pas tenu très longtemps. Le problème de l'ordre alphabétique, c'est qu'il faut avoir des étagères extensibles, puisque voilà, c'est la force de remplir. Il faudrait enlever des livres pour pouvoir pour les remplacer, ça je ne supporte pas. Donc maintenant, ils sont classés un peu par éditeur, ce qui fait qu'il y a un pan de mur jaune avec Grasset, il y a les Gallimard sont tous ensemble, etc. C'est plus esthétique que cohérent. Mais même ça, je n'arrive pas à le respecter. Donc c'est un foutoir, mais je m'y retrouve assez bien. Et régulièrement, quand ma femme me demande tel ou tel bouquin, je suis assez fier de le retrouver en moins d'une minute.
Vous avez des pièces de collection, un livre ancien ou un livre dédicacé par un génie?
J'ai eu la chance d'avoir une fiancée qui m'avait offert Mon cœur mis à nu dans sa première édition posthume de Charles Baudelaire. Toutes les œuvres posthumes de Charles Baudelaire sont magnifiques. Et donc j'ai un petit volume relié en cuir ancien, enfin, que je palpe régulièrement.
Et vous avez une dédicace d'un contemporain dont vous êtes particulièrement fier, Philippe Ross ou Bret Easton Ellis d'ailleurs.
Ben j'ai American Psycho dédicacé To My Master par Bret Easton Ellis.
Waouh !
Mais c'est moi qui lui ai dicté la dédicace.
Restez avec nous, Frédéric Becbédé. On part maintenant acheter des livres chez un libraire. À tout de suite. Et on écoute, tiens, Michel Legrand sur Europe 1, Les Moulins de mon cœur.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
C'était les moulins de mon cœur, évidemment, Michel Legrand.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour de La Voix est libre, il est l'heure de rendre visite à un libraire, direction la librairie Lamartine à Paris, chez Stanislas Rigaud.
Bonjour Stanislas.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir. Alors vous avez trois livres très très différents aujourd'hui, et vous m'avez dit on commence quand même par La Fête des Mères.
Ah oui, c'est aujourd'hui, donc voilà. Alors foncez, il y a plein de libraires qui sont ouverts le dimanche. Et alors, Dame d'honneur de Anne Glen Conner aux éditions Les Escales, c'est le cadeau de Fête des Mères. Anne Glen Conner, c'est tout simplement, si vous avez regardé la série The Crown, cette dame blonde qui, sur les îles Moustiques, accueille la princesse Margaret à chaque fois que celle-ci a un coup de mou, et elle a beaucoup de coups de mou dans la série. Voilà. Et c'est donc l'histoire de cette femme qui se raconte et qui est donc une amie intime de Margaret, qui a connu Elizabeth enfant, elles ont joué ensemble, son père était écuyer de George VI. C'est raconté en anglaise, élégance, drôlerie, humour, c'est à la fois une vie au prisme de la famille royale, mais aussi une vie qui est absolument incroyable parce qu'elle va épouser un type qui est aussi génial que totalement tordu, qui va entre amour de la fête, ils vont organiser des fêtes extraordinaires, il y a des photos extraordinaires dans le livre, notamment Mick Jagger, David Bowie, enfin bon, ils sont tous déguisés, ils organisent des fêtes extraordinaires, mais ce mari qui est très rigolo, assez visionnaire, et amateur de la fête, et aussi malheureusement victime de gros accès de colère, ce qui donne des chapitres assez inoubliables, à commencer par La Nuit de Noces. Donc voilà, donc on part là-dessus, c'est vraiment le truc so british, c'est The Crown saison 5, en attendant la vraie saison 5, voilà, ça est un petit bijou pour la fête des mères.
Merci Dame d'honneur, donc, aux éditions Les Escales de Anne Glen Conner. Ensuite, un roman étranger, vous m'avez dit, ça faut le lire, faut le lire tout de suite, avant d'allumer les micros. Mais moi, je ne l'ai pas encore lu.
Voilà, alors il faut absolument lire le nouveau livre de Juan Gabriel Vázquez, Chanson pour l'incendie, aux éditions du Seuil. Alors, c'est aujourd'hui peut-être le plus grand écrivain colombien vivant. Il revient avec un recueil de nouvelles, elles sont toutes remarquables. Une écriture magistrale, sans aucun effet, mais avec une perception de l'être, le rapport, la finesse, c'est un livre qui s'ouvre comme un millefeuille, en fait. Chaque nouvelle est remarquable, et chaque nouvelle s'ouvre en elle-même dans différentes histoires. On a le rapport à la mémoire, le rapport à la violence, les contextes sont très différents. On passe d'une journaliste photographe de guerre qui rencontre une femme qui lui va lui rappeler un souvenir. On va passer à un type qui est peut-être le narrateur qui tourne un film en tant qu'acteur pour Polanski. On est dans des univers très très différents, mais à chaque fois, le thème de la mémoire, la violence sourde derrière, le rapport à la famille, c'est grand, grand livre. Vraiment, c'est très grand monsieur d'aujourd'hui. C'est une très bonne introduction à son œuvre, si vous ne le connaissez pas. Et sachez que ses romans sont aussi absolument remarquables. Un des grands monsieur de la littérature mondiale.
Mais je croyais que ça ne se vendait pas en France, les nouvelles.
Alors, les nouvelles se vendent peu en France, mais quand elles sont géniales, comme celle de M. Vázquez, je peux vous dire qu'on va en rendre plein.
C'est mon combat, réhabiliter les nouvelles en France. Aux États-Unis, ça cartonne, il n'y a pas de raison.
Tout à fait, et c'est vraiment remarquable. Vous n'achetez pas un recueil de nouvelles, vous achetez 9 romans.
Exactement, bravo, je la garde celle-là. Ensuite, un dernier, histoire de passer un peu de musique. Bob Dylan vient d'avoir 80 ans. J'adore Bob Dylan, vous aussi. Et vous vouliez nous parler d'un livre qui parle de lui, mais c'est en fait le livre.
Voilà, c'est sans doute le livre. Je sais qu'il y a des camions, des montagnes, de livres sur Bob Dylan. C'est la réédition chez Flammarion du chef-d'œuvre de Robert Shelton qui s'appelle Bob Dylan No Direction Home. Donc c'est un album, mais le texte est remarquable, aussi bien que les photographies. C'est l'histoire Robert Shelton et le type qui en 61 va découvrir Bob Dylan qui arrive à New York. Et donc c'est une biographie de référence qui a été publiée pour la première fois en 1986, qui est republiée aujourd'hui, illustrée avec des photos époustouflantes. Le texte a été entièrement retraduit. C'est une vraie traversée de la vie de Bob Dylan par un type qui a vécu ces années-là. C'est un indispensable pour tout amateur de musique. En plus, il n'est pas très cher, hein, puisqu'on a évoqué, le livre fait 35 euros. À vue de nez, vous avez l'impression qu'il en fait au moins 15 de plus. Donc autant vous dire qu'il ne faut pas hésiter une seconde.
Ben, on va écouter un peu de Bob Dylan, tiens. Tant qu'on y est, c'est le bon prétexte. Merci beaucoup, Stan. À bientôt.
Merci, je vais éviter de chanter.
C'était Like a Rolling Stone de Bob Dylan sur Europe 1, ça fait du bien.
14h-15h sur Europe 1, la voix est libre.
Et comme chaque semaine, on retrouve Victor Dolland et sa littérature jeunesse. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Le Chant des loups. C'est un grand album là, de Alice Liénard et Marine Schneider.
Oui, on remonte au tout début du temps. J'adore la formule. À l'époque où Le monde sentait la terre mouillée et le sapin. À cette période, les loups étaient des compteurs hors pair. Et oui, tous les soirs, ils hurlaient et tous les animaux de la forêt, en fait, tendaient l'oreille juste pour écouter leur comptine. Sauf que les deux pattes sont arrivées. Là aussi, la formule est heureuse. Les deux pattes tuèrent plusieurs loups et ces derniers n'avaient pas d'autre choix, bien évidemment, que l'exil.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, les loups manquaient terriblement à la forêt. Il n'y avait plus d'histoire le soir. Tout le monde s'ennuyait. Du coup, les ours décidèrent de convoquer une réunion avec tous les animaux de la forêt et les deux pattes. Ils leur demandèrent, c'est simple, de partir à la recherche des loups pour leur dire pardon. Aucun des deux pattes n'eut suffisamment de courage pour lever la main, sauf une toute petite fille, pas plus haute que trois pommes, qui demanda juste quand même, bah oui, est-ce que je peux être accompagné parce que j'ai quand même un petit peu peur. Donc c'est ainsi qu'une vieille ours choisit de faire chemin avec elle. Les deux amis retrouvèrent la trace des loups. Mais comme d'habitude, Nicolas, bah oui, je vais garder le suspense. Je ne vais pas tout vous raconter. Je ne vais pas vous dire non plus ce qui s'est dit entre les loups, l'ours et la jeune fille. Non, ça, je vous laisse le découvrir.
C'est un peu le livre de la jungle, en fait.
Il y a un petit côté comme ça. Un très, très bel album avec des aquarelles. Puisque vous feuilletez le livre, des aquarelles magnifiques. Un album qui raconte aussi parfaitement ce que pourrait ou devrait être l'harmonie entre les animaux. Et je répète cette formule que j'aime beaucoup, les deux pattes.
Ah oui, puis il y a une indication à la première page, je suis en train de le lire. C'est exactement. Une histoire de pattes et de fourrure, une histoire qui se murmure. Exact. Donc il faut murmurer le livre quand on le lit.
Très bel album.
Merci beaucoup. Le Chant des loups d'Alice Linéar et Marine Schneider aux éditions Albin Michel Jeunesse. Merci beaucoup Victor.
Merci Nicolas.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Cyril Pascal derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.